Vous savez, il y a toujours une difficulté pour introduire, véhiculer l'élévation spirituelle dans la vie quotidienne. En effet, ce n'est pas trop difficile d'être un grand tzaddique lorsqu'on est dans les murs d'une yeshiva. Tu prends ta gemara, ta tfila. En effet, tu fais une bonne tfila et tu fais une bonne étude. Bon, c'est extraordinaire. Mais lorsque tu sors dans la rue de véhiculer cette Torah, dans ta vie quotidienne, c'est plus difficile. C'est ce que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu après Matan Torah. Lechem orlahem, shuvu lachem, leaolechem. Va dire au Bnei Israël, eh bien, allez rentrer dans vos tentes. Vous avez reçu la Torah, Har Sinai ou Mont Sinai. À présent, il faut introduire cette Torah chez toi, à la maison. C'est encore plus difficile. On peut recevoir la Torah au Har Sinai, en effet, mais l'introduire dans la vie quotidienne, c'est plus difficile. On raconte que quelqu'un, eh bien, il a fait une veillée extraordinaire, soir de Shavuot. Il a étudié pendant 7 heures, 8 heures d'affilée, il a fait une tefila du tonnerre pendant 3 heures, et il a imaginé qu'il est vraiment au pied du mont Sinaï, comme un ange qui a reçu la Torah. Il rentre chez lui à la maison, il voit, n'est-ce pas, que sa femme, à peine s'est levée du lit, en train de se traîner, et les enfants sont en train de se disputer, de se chamailler. Alors bon, il est étonné, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas eux aussi au niveau spirituel que lui il a atteint à Shavuot. Bon, il se retient, il se maîtrise pendant quelques minutes, il dit une remarque à droite, à gauche. Après une demi-heure, eh bien, il s'énerve, il se met en colère, et en quelques instants, il a perdu toute son étude de Shavuot. Tout ce qu'il a reçu, n'est-ce pas, comme Torah ou Har Sinai, eh bien, il a perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su introduire, véhiculer cette Torah chez lui, chez soi, à la maison. En effet, vivre avec la Torah à la maison, lorsqu'on est dehors, lorsqu'on réalise un business, c'est plus difficile que la réaliser lorsqu'on est entre quatre murs, n'est-ce pas, d'un Beit Midrash. La Gemara Brachot d'Av Samer raconte la petite histoire suivante. Yehuda bar Natan hava shakil ve'azil batre de Rav Hanouna. Yehuda bar Natan, eh bien, marchait derrière Rav Hanouna. Atnach, Yehuda bar Natan a soupiré. Amarle, lui a dit Rav Hanouna, Yisurin baya ugavra le'atuya nafshe. Tu veux t'amener des souffrances. Dirtiv, ki pachat pachati, vayetani, vashri agorti, yavoli. Dit le verset dans Iyov, eh bien, j'ai eu peur, et cette peur m'est arrivée. Et ce que je craignais m'est aussi arrivé. C'est-à-dire que Rav Hanouna a enseigné ça à son camarade. Lorsque tu te mets à soupirer, lorsque tu te mets à rouspéter, à te plaindre, eh bien tu es en train, n'est-ce pas, d'amener vers toi ces perturbations. Ce que tu crains, tu es en train, n'est-ce pas, de le tirer vers toi. On va expliquer ce que ça veut dire. Il y a un midrash bien connu. Sur le verset, on va lire dans deux semaines de Hashem, Parashat Shemot. Et lorsque Hashem voulait envoyer Moshe Rabbeinu libérer Bnei Israël, il a dit à Moshe Rabbeinu, parce que Moshe lui a dit, eh bien, par quel nom ils vont me dire ton Dieu, comment il s'appelle? Alors Hashem lui a dit, dis-leur le nom Eye Asher Eye. Bon, c'est une notion très complexe. Mais un des commentaires dit la chose suivante. Dit le Midrash, Keshem Shata Oveimi, Kachani Ove Imcha. C'est-à-dire, Hashem dit, je vais me conduire exactement de la même façon dont toi, tu vas te conduire avec moi. Comme David Ameler, dans le verset, Hashem Tzilecha. Hashem est ton ombre. Et le Midrash commente, Maot Tzilecha, c'est quoi cette ombre-là? Matzilcha imata mesachek lo mesachek lecha. C'est-à-dire, si tu es devant un miroir, ou alors, n'est-ce pas, on voit ton ombre à travers le soleil, eh bien, si tu vas rigoler, eh bien, en effet, pareil aussi pour ton ombre, pour ton image. Si tu pleures, eh bien, cette image aussi, elle va pleurer. Et si tu vas montrer un visage rayonnant, ou alors un visage sévère, un visage triste, eh bien, exactement, cette ombre-là, cette image, ce miroir, te montrera une image pareille. Afakish Baruchu, Hashem Tzilecha. Keshem Shatoveimo, Uove Imcha. Hashem, il est ton ombre. La façon dont tu vas rayonner par rapport à Hashem, Hashem aussi va rayonner par rapport à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, lorsqu'on parle d'ombre ou d'image, de miroir, par rapport à Hashem, il ne s'agit pas, évidemment, de la façade extérieure. Parce qu'en effet, on peut sourire en étant très triste, en étant angoissé. Alors que pour Hashem, lorsqu'Hashem, eh bien, te demande de rayonner, il s'agit du rayonnement de l'esprit, de l'âme, du cœur, du sentiment. Et c'est ce qu'Hachem va examiner en toi. Lorsque tu rayonnes devant Hachem, tu es rayonnant par rapport à Hachem, par rapport à la vie, par rapport à toi-même, eh bien Hachem aussi, il va rayonner. Hachem meir lecha panim. Il te montre pareil. Hachem tzilcha, il va réagir exactement de la façon identique. Alors que si tu te mets, si tu as un visage, une mine allongée comme on dit, eh bien Hachem aussi pareil. C'est-à-dire que si tu te mets constamment à soupirer, à râler, à houspéter sur ce qui ne va pas, sur tes échecs, il s'agit évidemment même d'échecs réels, de problèmes réels, quand tu te mets à houspéter, à râler, eh bien Hachem aussi va te montrer exactement l'image identique. La Gemara dit, Batar ania azla aniuta. C'est-à-dire, c'est que la pauvreté, elle poursuit le pauvre. Un homme pauvre, la pauvreté le poursuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique le Shlach Kadosh que la façon dont tu vas te conduire, eh bien, tu es en train de déclencher exactement le rayonnement pareil et similaire du ciel par rapport à toi. Par exemple, dit le Shlach Kadosh, quelqu'un qui Haïla n'a rien à manger. Qu'est-ce qu'il a? Juste un morceau de pain et de l'eau. Eh bien, nous conseille le Rav, plutôt que manger son morceau de pain sur un tabouret, ou alors en position debout, puisqu'il n'a rien à manger, il dit non, tu feras exactement le contraire. Tu vas dresser la table la plus belle que tu as à la maison. Et tu prends la nappe la plus belle que tu as. Et tu t'assieds de façon digne et noble pour manger ta tranche de pain et boire ton verre d'eau. De cette façon, tu vas déclencher la richesse, la noblesse, la réussite vers toi. Si tu manges ton morceau de pain n'importe comment, comme un pauvre, eh bien tu vas véhiculer vers toi la pauvreté encore plus. La façon dont tu vas te conduire, eh bien ça va déclencher la richesse ou la pauvreté. Batar ania azaniuta. La pauvreté poursuit l'homme pauvre. Quand tu te conduis comme un pauvre, comme un homme misérable, eh bien, cette pauvreté te poursuit. La Gemara ramène aussi cela par rapport au fait de respecter les aliments. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, c'est une halakha aussi en Shranour, de jeter même les miettes de pain, parce que si on va marcher dessus, les écraser, c'est un mépris pour l'alimentation. Comme le pain, c'est le symbole même de l'alimentation, eh bien, c'est interdit et un mauvais signe d'écraser ces miettes de pain. Il faut absolument, n'est-ce pas, faire attention de ne pas qu'elles tombent par terre. Quand elles tombent par terre, il faut tout de suite les ramasser, les balayer, pour ne pas qu'on les écrase. C'est tellement important. Raconte la Gemara une histoire dans Khoulin, Perek Shmini, qu'il y avait une fois quelqu'un qui faisait extrêmement attention à cela. Et le Satan le poursuivait. Parce qu'en effet, le Satan est conscient à quel point c'est important pour amener la richesse ou le contraire. Et une fois, cet homme-là, il a mangé un morceau de pain lorsqu'il était dans un champ. Et le Satan a dit, cette fois, je vais l'attraper. Et lorsque cet homme-là a fini de manger, eh bien, il a pris une grosse pelle et il a déterré toute la motte de terre qu'il y avait aux alentours, n'est-ce pas, pour jeter ensuite cette motte de terre dans le fleuve. À tel point, il faisait attention, n'est-ce pas, ne pas laisser les miettes de pain dispersées à droite, à gauche. Et le Satan a dit, cet homme-là, je perds un contre lui. En tout cas, n'est-ce pas, toujours est-il, c'est qu'on apprend de cela, c'est qu'on doit respecter l'alimentation, se respecter, s'honorer. Lorsque tu vas te conduire de façon digne et noble, eh bien tu vas déclencher, amener la richesse, la réussite vers toi. C'est important pour n'importe quel aliment, mais surtout, surtout pour tout ce qui est pain, ainsi que biscuits et gâteaux. Tout ce qui est appelé, n'est pas pâte, pâte avec Kislim, tout ce qui est appelé pâte, c'est important, c'est une halakha, Baruch Shulchan Aruch, à respecter, il faut faire attention à cela. Donc, c'est ce que dit le Shel HaKadosh, Batar Ania Azaniuta, c'est que la pauvreté, elle poursuit l'homme pauvre. Et au contraire, lorsque tu vas te respecter, t'honorer, te conduire de façon digne et noble, eh bien, tu vas déclencher la richesse vers toi. C'est pourquoi dit Rav Amnouna à son camarade, lorsque tu soupires, c'est-à-dire que lorsque tu es en train de râler, de rouspéter pour les problèmes que tu as, eh bien, tu es en train de les intensifier encore plus, de les amplifier. Tu vas t'amener encore, n'est-ce pas, des problèmes de plus. Alors en fait, il y a ici deux dimensions à bien préciser. C'est que d'une part, tu donnes plus d'ampleur à tes problèmes. Et deuxièmement, tu vas amener encore d'autres problèmes vers toi. On a raconté plusieurs fois l'histoire, on va la répéter encore une fois, l'histoire de deux frères jumeaux qui sont en train de jouer sur une plage. Et tout d'un coup, il y a une vague, n'est-ce pas, qui les a submergés. Ils ont tous les deux bu la tasse. L'un d'eux s'est mis à pleurer et a réclamé sa mère. L'autre a éclaté de rire et a couru vers les vagues. Alors en fait, pourquoi ce garçon a pleuré? À cause de la vague, à cause de la tasse qu'il a bu? Non, c'est faux. Parce que si la tasse que tu as bu te fait pleurer, eh bien, son frère jumeau aurait dû réagir de façon pareille. Donc en fait, c'est pas la vague qui t'a submergé qui fait ni rire ni pleurer. C'est la façon dont tu vas toi-même communiquer avec ton subconscient. La façon dont tu vas interpréter tel événement qui va arriver. Et ça, la façon de rayonner ou alors de rouspéter. Tout ce qui t'arrive dans la vie, eh bien, tu peux soupirer ou alors tu peux le prendre d'une façon différente, plus positive, qu'on va tout de suite expliquer. Et cela, à ça dit le Midrash, Hachem Tzilecha, fais attention, Hachem c'est ton ombre, Hachem il va rayonner de façon pareille, qui va être identique à ta conduite. Alors je répète, il ne s'agit pas ici, n'est-ce pas, d'avoir la façade, parce que pour Hachem ça ne marche pas. Quand tu fais, n'est-ce pas, un sourire jaune, un sourire forcé, ce n'est pas ça qui va marcher avec Hachem. Il faut que tu sois réellement rayonnant dans ton sentiment, dans ton cœur, dans ton esprit. Et on est en train de voir maintenant les parachiotes de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik qui a passé 12 années de sa vie en prison. Les plus belles années de la vie, plus importantes, de 18 ans à 30 ans. C'est un niveau qui nous est difficile à imaginer. Il faut aussi se rendre compte que la prison, il y a 3500 ans, eh bien, ce n'est pas les prisons de nos jours qui sont comme des hôtels, deux étoiles, mais c'était, n'est-ce pas, un genre de trou, une grotte, une caverne, avec des conditions vraiment très très précaires, très difficiles à vivre. Imaginez un jeune garçon de 18 ans jusqu'à 30 ans, et qui n'avait aucun espoir de sortir. A priori, c'était la prison à vie. Et dit le Midrash que Yosef, tous les jours, remerciait Hachem, et chantait Hachem, même des fois danser dans cette prison. Un niveau qui nous dépasse. Mais grâce à cela, eh bien Yosef a réussi. Juste avant, quand il était chez Potiphar, la Torah nous dit, « V'chol asher u'ose, Hachem matzliach biyado. » Tout ce que Yosef réalisait, eh bien Hachem lui donnait la réussite. Comment cela? Pourquoi? Parce que Yosef était persuadé. Persuadé que s'il a été jeté, projeté en Égypte, chez Potiphar, ensuite, dans une prison, eh bien, pas par hasard. C'est Hachem qui l'a voulu. Jamais il en a voulu à ses frères. La réaction humaine, c'est j'ai raté ma vie, j'ai loupé ma vie, c'est terminé, pas mes frères m'ont vendu, et se remplir de rage, être furieux contre ses frères à cause de cette vente, qui était vraiment a priori, n'est-ce pas, à part les commentaires profonds de Kabbale qui expliquent cela, mais a priori c'était vraiment quelque chose qui dépasse toute imagination. Être vendu par ses grands frères alors qu'il a à peine 17 ans, eh bien, il y a toutes les raisons de se mettre à râler, à rouspéter et de sombrer dans une déprime, un désespoir total. Yosef a fait exactement le contraire. Il remercie Hachem. Il était presque heureux, on va dire, parce qu'il était persuadé que ce n'est pas par hasard qu'il a été projeté dans telle situation. Et en effet, comment est-ce que Yosef a pu, après 12 ans de prison dans une grotte, jeté perdu, eh bien, être dirigé un pays comme l'Égypte? L'Égypte était la puissance mondiale numéro un à l'époque. Lorsque Paro l'a nommé, ce n'était pas sur un coup de tête. Paro était un homme très intelligent. Et Paro l'a nommé vice-roi sur toute l'Égypte parce qu'il a vu en lui des forces inouïes, des forces infinies. Cette force, Yosef, d'où est-ce qu'il l'a eu? Pas de l'âge de 17 ans. Il l'a eu parce qu'en effet, pendant ces 12 années, il s'est constamment travaillé. Et le plus grand travail, c'était d'être rayonnant, de ne pas rouspéter, de ne pas râler, de ne pas soupirer, mais au contraire de remercier Hachem. Et il savait, il était persuadé, eh bien, que Hachem lui réservait quelque chose. Des fois, on est dans une situation difficile. Alors, comme disent les commentateurs, la situation, en général, ce n'est pas toi qui l'as choisie. Hachem t'a mis dans telle situation, tel problème, tel pétrin. Ce n'est pas entre tes mains. Ce qui est entre tes mains, c'est une seule chose. La façon dont tu vas réagir par rapport à telle situation. Ta réaction, c'est à toi de la décider. Est-ce que tu vas te mettre à râler, à rouspéter, à déprimer, ou alors au contraire, remercier Hachem et essayer de trouver quelle va être la finalité de telle situation. C'est ce que Sefat Tzadik a bien compris. Il a dit, je suis projeté en prison pendant des années, va savoir combien. Eh bien, peut-être qu'Hachem me réserve un poste, une mission à remplir par rapport à ma famille, par rapport à mes voisins, par rapport aux Égyptiens, par rapport au monde entier. On ne sait pas ce qu'Hachem nous demande. Et tout d'un coup, on va te dire, eh bien, lève-toi. Lève-toi et dirige ta famille. Tu dois faire face à telle situation. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à surmonter de grandes épreuves et d'autres flanchent? La réponse est très simple. Ça dépend de ton passé. Si tu as su exploiter eh bien, les années, les dizaines d'années qui ont précédé, pour ne pas râler ou spéter, mais au contraire, essayer d'exploiter le potentiel maximal que tu pouvais exploiter, de savoir réagir par rapport à telle situation de façon parfaite et idéale. Et donc, automatiquement, les problèmes que tu as traversés, ce n'est pas des problèmes, c'est des réussites. Parce que c'est ce qui t'a immunisé, c'est ce qui t'a bâti, c'est ce qui t'a édifié. Qu'est-ce qui a édifié Yosef? Qu'est-ce qui l'a préparé à être un roi, alors qu'il n'a pas grandi dans la cour royale, à part peut-être une année chez Potiphar. Mais ensuite, au contraire, pendant 12 années en prison, eh bien Yosef n'a pas cessé de grandir, d'édifier sa personnalité, de se préparer, sans le savoir, à être le vice-roi de l'Égypte. Mais ça dépend uniquement, n'est-ce pas, d'un point important. Est-ce que tu vas te mettre à râler ou à remercier? Est-ce que tu vas soupirer, déprimer, ou alors au contraire, tu vas te dire, j'ai une situation difficile à affronter, eh bien, qu'est-ce qu'Hachem me demande dans telle situation? Quelle est la réaction la meilleure, la parfaite possible par rapport à telle situation, à telle épreuve? Alors, d'une part, on doit d'abord s'habituer à remercier Hachem pour le bien qu'il nous donne. Parce qu'en effet, la nature humaine, c'est au contraire, on pense que, eh bien, tout nous revient de façon ordinaire, normale. Le Gaon Mivilna envoyait ses élèves tout le vendredi dans les hôpitaux pour voir les malades, pour prendre conscience, eh bien, sois content, sois heureux que tu es en bonne santé. Et remercie Hachem pour cela. On respire de l'air tous les jours, on a de quoi boire, de quoi manger, de quoi s'habiller, de quoi vivre, et on pense que c'est normal. Et dès qu'il nous manque quelques sous pour acheter n'importe quoi, ou pour faire un voyage, eh bien, tout de suite, on se met à rouspéter, à soupirer, n'est-ce pas? On est déprimé, on est dérangé par n'importe quel petit problème de la vie. Ça, c'est un grand tort. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on a par rapport à d'autres situations. Alors bon, c'est pas toujours bien, n'est-ce pas, de comparer des situations trop catastrophiques comme celle de la Shoah ou celle des guerres ou l'Inquisition, mais sans arriver si loin, se rendre compte combien de problèmes il y a dans le monde. Problèmes de santé, problèmes de finances, problèmes de shlombaït, problèmes d'éducation, 36 problèmes, 36 domaines. Et faire un bilan par rapport à ce qu'on a et ce qu'on n'a pas, par rapport au monde entier, ça suffit pour remercier Hachem. La complexité de notre corps humain, l'anatomie, la physiologie du corps humain. Il y a des milliers, des millions de miracles qui se réalisent à chaque instant dans notre corps. Vous voyez un peu les livres de physique, de chimie, de science. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Quand tu as versé une goutte d'acide sur ta peau, eh bien, il y a des dizaines, voire des centaines de réactions qui sont en train de se réaliser à chaque instant. Qui sont, n'est-ce pas, la protection de ta peau par rapport à cet acide. Il y a tout de suite, n'est-ce pas, un message qui est donné au cerveau, et le cerveau, n'est-ce pas, va réagir et provoquer des dizaines de réactions automatiques pour protéger ta peau. Notre corps, c'est un laboratoire. On a des milliers, des millions de réactions qui se réalisent chaque instant. Pour cela, remercier Hachem, qu'on soit en bonne santé, qu'on ait de quoi manger, de quoi vivre. À part cela, faire un bilan, même par rapport aux problèmes de la vie. À ce que tout ce qu'on avait, qu'est-ce qui nous dérange en général, c'est le programme qui a échoué. Tu as prévu telle chose, ça n'a pas marché. Tu as entrepris telle entreprise, tel programme, et aussi, ça n'a pas donné, ça a échoué. Alors bon, évidemment, n'est-ce pas, ça cause une déception. Alors en fait, bien comprendre que l'échec de la vie, c'est aussi une réussite. Comme l'a fait Youssef HaTzadik. Eh bien, son échec, l'échec de sa vie, entre guillemets, entre parenthèses, qui était les 12 plus belles années, n'est-ce pas, de la vie, a priori, en prison, de 18 ans à 30 ans, il a su les exploiter. C'est-à-dire, en fait, il n'y a jamais d'échec. Chaque situation, tu peux l'exploiter de façon maximale possible. À toi, n'est-ce pas, de bien communiquer avec ton subconscient. Comme ce jeune garçon qui l'a fait spontanément, eh bien, qui, lorsque la vague a submergé, il a bu la tasse, il a éclaté de rire par rapport à cette vague. C'est-à-dire qu'en fait, chaque événement, tu peux l'interpréter de façon positive ou de façon négative. C'est écrit dans Sefer Yetzira que Oneg et Nega sont les mêmes lettres. Oneg, c'est un plaisir. Nega, c'est un vice, une plaie, un problème. Alors, Oneg et Nega, ce sont trois lettres qui sont les mêmes. Cependant, quelle différence? Est-ce que le Aïn, il est au début ou à la fin? Lorsqu'il est au début, c'est aussi symbole que lorsque ta vision, eh bien, elle est objective, elle est droite, ça te donne Oneg, c'est un plaisir. Alors que le Aïn, quand il est à la fin, lorsque ta vision, elle est arriérée, elle est déformée, ça te donne Nega, ça te donne un vice. C'est-à-dire qu'en fait, on peut transformer un Oneg en Nega ou un Nega en Oneg, comme l'a fait Youssef. C'est que cette prison, eh bien, pour lui, c'était une source pour pouvoir bâtir sa personnalité. S'il a pu, n'est-ce pas, de la prison après 12 ans, être vice-roi d'un pays comme l'Égypte, ça veut dire qu'il s'y est préparé constamment. Il ne s'est pas laissé aller à la déprime, mais il a constamment réfléchi, médité, prié, n'est-ce pas? Il a médité sur la condition humaine, médité sur les valeurs humaines pendant des années, jusqu'à ce qu'il s'est forgé une personnalité, n'est-ce pas, de taille, qui était costaud, qui était solide, qui était prêt à affronter n'importe quel problème de la vie. En effet, il a dirigé un pays entier et dirigé dans la richesse, dans l'abondance, ainsi que dans la famine. Ce n'est pas évident aussi à faire. Ce n'est pas évident. 7 ans d'abondance, pour ensuite, n'est-ce pas, quelques années, c'était 7 ans a priori, mais ça a donné uniquement 2 ans de famine. Alors gérer un pays avec pas une telle intelligence, telle finesse, eh bien si Youssef qui l'a fait, comment est-ce qu'il l'a fait? Il a bâti cela dans les conditions les plus difficiles, les plus misérables qu'il avait, n'est-ce pas, auparavant. Il y a beaucoup d'histoires que des Gdolé Israël, eh bien, en effet, ils avaient des conditions très difficiles, et c'est grâce à cela qu'ils ont grandi. Et d'ailleurs, on a vu hier dans la paracha, c'est que les frères de Youssef, lorsqu'ils s'est dévoilés à eux, eh bien, ils étaient comme effrayés, ils ne pouvaient pas sortir un mot de la bouche. Kinivhalou mi panav. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils ont eu comme un peu peur de lui. Ils ont eu une réticence par rapport à lui. Alors la question est posée, parce que même de nos jours, tu rentres chez un grand tzaddik, il sait qui est en face de lui. Tu rentrais chez Baba Saleh, chez le Stapler, il savait s'il est en face de lui, un tzaddik ou un rachat, il savait qui est en face de lui. Ça, c'est de nos jours. Alors que lorsqu'on remonte à 3500 années, eh bien, les Shvatim, qui étaient Yehuda et Rouven, qui étaient un niveau spirituel très élevé, gigantesque, infini, qui dépasse notre imagination, comment est-ce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient en face d'eux un grand tzaddik comme Youssef? Il leur paraissait un Égyptien, un dominateur. Comment est-ce qu'ils ne se sont pas rendus compte de cela? Alors, la réponse est, c'est qu'en effet, Yosef, il avait cette faculté de pouvoir cacher sa tzitzkout. Lorsque tout d'un coup, il s'est dévoilé, il leur dit, Ani Yosef. Là, tout d'un coup, il a dévoilé sa grande tzitzkout. Et lorsqu'ils ont rendu compte qu'ils avaient un instinct tzaddik, même plus qu'eux, ils ont eu peur. Ils ont eu peur et ils ont tout compris. Tout compris. Et ils se sont dit, eh bien, si Yosef avait grandi avec nous, avec Yaakov et nous, eh bien, il serait arrivé à un niveau spirituel bien plus gigantesque, plus élevé que cela. Ils ont eu des remords. Ils ont dit, voilà pas, il était en Égypte, dans le pays plein de Tum'a, d'impureté, du Yetzara, et il est devenu un si grand tzaddik, alors que s'il était avec nous, avec Yaakov et nous, eh bien, il aurait grandi encore plus. Yosef leur dit, c'est le contraire. Il leur dit, sachez, eh bien, c'est ma grandeur parce que j'ai été éprouvé pendant 12 années en prison. Et j'ai su, n'est-ce pas, surmonter ces épreuves-là, que j'ai grandi de façon si magistrale. Je suis Yosef Hatzadik grâce à ces conditions difficiles. C'est-à-dire qu'en fait, bien souvent, on se met à ralarousse pété parce que, comme Hachem ne nous a pas aidés, on est inconsciemment révolté contre Hachem. Hachem, pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à mes tfilotes? Enfin, on le dit, on le pense, consciemment, inconsciemment. Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à mes tfilotes? Et devant, on ne se rend pas compte, eh bien, que la meilleure réponse à tes tfilotes, c'est la situation dans laquelle tu es. Est-ce que Hachem n'a pas répondu à Yosef en prison? Est-ce que ça n'a pas prié? Mais au contraire, s'il était sorti de cette prison, il n'aurait pas été vice-roi d'Égypte. La meilleure façon pour lui de devenir le vice-roi d'Égypte, eh bien, c'est de rester en prison pendant 12 années. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on doit demander, on doit prier. C'est sûr qu'a priori, parce qu'on ne sait pas quelle est la meilleure situation pour nous, c'est vrai. Mais lorsqu'on a fait ce qui est nécessaire, d'après la halakha, d'après, n'est-ce pas, da Torah, d'après les conditions générales de la vie qui nous entoure, du pays dans lequel on vit. Bon, il faut aussi des fois demander conseil par rapport à cela. Lorsqu'on a fait ce qu'on doit faire, ce qu'on appelle la ishtadlut, l'effort nécessaire concret par rapport à ce qu'on devrait faire dans n'importe quel domaine, par rapport à la santé, aux finances, par rapport au mariage, par rapport à la vie de famille, etc., eh bien, il faut se remplir de emouna que, pour le moment, c'est la meilleure condition qui te revient. Des fois, il faut passer aussi un certain temps de galoute d'exil. Hachem a décrété à nos ancêtres 210 ans d'exil en Égypte. C'était difficile, très difficile. Mais cet exil, c'est ce qui les a préparés au Matan Torah, à être le peuple élu. Sans cela, ça aurait été impossible. Alors, il est sûr et certain qu'on doit a priori, n'est-ce pas, faire des pieds et des mains de façon normale pour éviter le problème, pour sortir du pétrin dans lequel on se trouve. Il faut demander conseil, n'est-ce pas, à la halakha, à la Torah, à de grandes sommités rabbiniques, en effet. Une fois, n'est-ce pas, qu'on a bien tout vérifié cela de façon objective, qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on devait faire, se remplir de emouna, eh bien, la situation dans laquelle tu es, c'est la meilleure. Ne jamais rouspéter, jamais râler, parce que Hachem tzilcha. Hachem, il rayonne en face de toi comme un miroir. Tu te mets à râler, eh bien, tu vas amplifier ton problème et tu vas amener des nouveaux problèmes. Batarania azaniuta. La pauvreté poursuit le pauvre. Quand tu es souriant, souriant dans ton cœur, dans ton âme, quand tu rayonnes, quand tu remercies Hachem pour être en bonne santé, pour respirer de l'air, pour boire de l'eau, quand tu remercies Hachem pour les problèmes qu'il t'a amenés, comme Yosef, n'est-ce pas, qui remercie Hachem pour la prison dans laquelle il se trouvait, eh bien Hachem va te donner la plus grande richesse, la plus grande réussite. Comme dit le verset, « Le kol ashiro ose, Hachem matzliach beyado. » Okay?
Ma question, c'était comment faire quand on sait que c'est pour le bien, mais que la situation fait quand même souffrir. On est convaincu de la nécessité du bienfait de la chose, mais...
C'est exactement la situation de Yosef en prison, et la situation de nos ancêtres aussi en Égypte. En effet, c'est sûr que certaines situations sont difficiles, sont perturbantes, sont angoissantes, font souffrir, en effet. Alors bon, mais comprends bien, c'est que d'abord, le fait de savoir que c'est pour son bien, ça soulage de la souffrance. Le fait de se remplir de emouna, de foi parfaite, et essayer de le vivre cette emouna, ça va aussi soulager la souffrance. Troisièmement, il faut bien comprendre aussi que la souffrance, c'est aussi une forme de tikkun. C'est quelque chose qui va, n'est-ce pas, comme un vêtement qui est sale. on le passe en machine à laver. On met de la javel dessus. Alors, des fois, une passe à la même un peu irriter le vêtement. Mais il n'y a pas le choix. C'est comme ça qu'on enlève la tâche. Des fois aussi, certaines souffrances, c'est pour notre bien. Le tikkun de certaines avérotes doit absolument passer par la souffrance. Mais c'est écrit que chaque avéra, on peut la réparer de trois façons. La meilleure, c'est la tchouva. Sinon, les souffrances dans ce monde-là. Ou alors, c'est les souffrances, n'est-ce pas, dans mon futur guénome. Les trois, n'est-ce pas, ça va amener le tikkun à la personne. Même la tchouva, qui est la meilleure façon, la tchouva aussi, et des fois, est difficile de faire le vidouille, de regretter. C'est des fois, en effet, c'est un cap qui n'est pas facile à réaliser. Et bien comprendre, et bien qu'en effet, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Alors bon, il y a d'autres méthodes, n'est-ce pas, d'autres méthodes. C'est que l'étude de la Torah approfondie, assidue, eh bien, allège des souffrances. Ça enlève les souffrances. La tfila, la tfila du fond du cœur, aussi va enlever les souffrances. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'astuces dans ce domaine-là qui peuvent éviter la souffrance. Mais tout d'abord, le travail qu'on a à faire, dans tous les cas, cette émouna, parce que cette émouna va nous permettre de remercier Hachem, même par rapport au problème qui nous a été occasionné, et surtout, d'exploiter la situation problématique. Est-ce que ça a compris? La situation de 12 années en prison, il a exploité de façon maximale. C'est comme ça, grâce à cela, qu'il a été édifié. Pourquoi? Parce que c'est écrit « Ketz sam lechosher ». Hachem, il a donné une fin, une limite aux souffrances. C'est-à-dire que, dès le départ, il y a une date fixe aux souffrances. Il y a un verset qui dit dans Akidavor, Cholaim Raim Venemanim. Des fois, Hachem, il envoie, eh bien, des souffrances, Nehemanim, de confiance. Dit la Gemara, dans Vodazara Lamedé, c'est quoi de confiance? Répond la Gemara, eh bien, lorsqu'on envoie les souffrances, on les fait jurer au ciel. Allez chez telle personne, de tel jour à tel jour. Pendant 2 heures, 2 mois, 2 ans, 5 ans, ni plus, ni moins, avec telle intensité. Et on les fait jurer. On les fait jurer, n'est-ce pas, de rester exactement jusqu'à telle date. À tel point, dit la Gemara, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, hein? Alors, il avait des souffrances pendant 2-3 ans. Il a tout essayé, ça ne marche pas. Une fois, il passe en face d'une église. Il dit, ah, j'ai pas essayé encore ça. Viens, on va essayer. L'église ou une idolâtrie. Il va là-bas, n'est-ce pas, prier à l'église ou se prosterner à l'idole. Et ce jour-là, précisément, eh bien, au ciel, on l'a décrété que ce jour-là, la souffrance devait le quitter. La souffrance pose la question, est-ce qu'on va le quitter? Il va être convaincu que c'est grâce à la prière à l'église ou alors grâce à l'idolâtrie. Malgré tout, dit l'agma, que les souffrances le quittent. Même s'il est trompé, il n'y a rien à faire. Parce que Nehemanim Bishvuatam, ils ont juré de quitter cette personne-là tel jour, eh bien, c'est ni plus ni moins. Oui, c'est sûr que ça existe. Le Mar Meutenburg était en prison, n'est-ce pas, vers la fin de sa vie, et il est décédé là-bas. En effet, il écrit un Sefer Torah là-bas, mais il n'est pas déprimé à cause de ça. Il s'est arrangé pour avoir là-bas un parchemin et pas de l'encre. Il a écrit là-bas un Sefer Torah, Mar Meutenburg, il y a environ 900 ans, 1000 ans. En effet, des fois, le tikkun de la personne, eh bien, c'est de passer quelques années jusqu'à la fin de sa vie dans telle souffrance, telle situation, c'est le tikkun. On ne sait pas, le monde des Neshamot, on ne connaît pas grand-chose là-dessus. Mais bien souvent, eh bien, c'est le tikkun bien spécial qui est pour la personne en question. Alors, il y a aussi une histoire intéressante, une histoire vraie dans ce domaine-là. Il y avait en Iran, il y a quelques dizaines d'années, il y a une vague d'antisémitisme qui s'est levée. Et un homme a été assassiné. Et sa femme, avec 5 enfants... était persuadé, on lui a dit aussi, eh bien, si elle restait dans la ville encore quelques jours, eh bien, elle et ses enfants aussi auraient le même sort. Alors bon, elle s'est organisée, il y avait là-bas quelqu'un qui prenait ceux qui voulaient voyager d'Iran jusqu'en Israël, à dos de chameau, de Dan, pendant, n'est-ce pas, quelques semaines. Un voyage très difficile, elle s'organise en quelques heures, a pris quelques sacoches avec elle, et est parti avec cet homme-là, avec les 5 enfants. Et tout le voyage, elle raconte cette dame, que cet homme, c'était un homme brut et cruel, de façon terrible. Il menaçait de les tuer, parce que le voyage est très difficile, il voulait s'arrêter, se reposer, lui voulait faire son voyage très vite en une semaine. Il avait un revolver sur lui, il menaçait la femme et les enfants. Une fois, ils sont arrivés en face d'un ravin, il y avait un pont qui était branlant, n'est-ce pas, au-dessus de ce ravin. Elle a vu ça, elle a dit non, je retourne en Iran. Il a pris son revolver, il a dit, pas madame, si vous ne passez pas ce pont sur le ravin, eh bien, vous terminez ici. Et elle est passée, elle est en train de trembler, en train de pleurer, les enfants en train de pleurer, un voyage terrible. Lorsqu'ils sont arrivés en Israël, après un voyage si difficile, ce monsieur-là, il a embrassé les enfants. Il a dit à la dame, madame, je suis moi aussi juif. Vous m'excusez, j'étais obligé d'agir de cette façon, parce que sinon, jamais vous serez arrivé à destination. La seule façon, le seul moyen de vous sauver la vie, eh bien, c'est d'avoir été brut et cruel envers vous et vos enfants pendant une semaine entière. Et maintenant, je file encore une fois en Iran pour sauver encore notre famille juive pour venir en Israël. Et sur ça, n'est-ce pas, il est assez bien. C'est-à-dire que bien souvent, eh bien, il y a des situations qui sont difficiles. Mais la difficulté, la souffrance, c'est pour ton bien, c'est ce qui va assurer ta délivrance. C'est ce qui va assurer, n'est-ce pas, le fait de sauver la vie. Alors ça, on ne le voit pas. C'est bien souvent, le monde, il est caché. Il est caché. Lorsqu'on lève le rideau, eh bien, tout est compréhensible. D'ailleurs, on l'a vu aussi dans la paracha d'hier, c'est que Yosef, il leur a dit, « Ani Yosef, je suis Yosef. » On dit le Midrash, à la fin des temps, lorsque Hachem dira, « Ani Hachem, je suis Hachem », eh bien, c'est exactement pareil. Il y a une similitude entre les deux. Quel rapport entre les deux? C'est bien simple. Les frères de Yosef avaient 36 questions. 36 questions. Pourquoi est-ce qu'ils les accusent? Il y a des milliers de personnes qui viennent en Égypte, ils veulent les accuser uniquement eux. Pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à leur famille? Pourquoi est-ce qu'ils prennent Shimon en prison? Pourquoi ils demandent Binyamin? Pourquoi ils s'intéressent à Yaakov? 36 000 questions. Pourquoi est-ce qu'il leur remet l'argent dans les sacoches? Pourquoi est-ce qu'il a mis le gavier, n'est-ce pas, sa coupe en argent dans le sac de Binyamin? 36 questions sans réponse. Dès qu'il leur a dit, « Ani Yosef, je suis Yosef », toutes les questions étaient répondues. Tout était clair comme de l'eau de roche. Pas aussi, nous on a 36 questions contre Hachem. Pourquoi l'exil? Pourquoi les souffrances? Pourquoi l'antisémitisme? Pourquoi si? Pourquoi le problème de famille, de santé, etc. 36 questions. Lorsque Hachem dira « Ani Hachem », c'est-à-dire Hachem va se dévoiler, une présence divine, là automatiquement, tout est répondu, il n'y a aucune question. Aucune question. La question, parce qu'on est dans un monde, n'est-ce pas, qui est bas en matériel. Le Ramban avait un élève qui était agonisant. Il n'a aucune chance de vivre. Alors, Ramban est allé le voir et lui a dit bon, que si jamais, n'est-ce pas, il ne verrait pas, eh bien, il a dit il a quelques questions sur la Torah qui lui sont très très lourdes, questions de méditation profonde, qu'il n'a pas de réponse. Eh bien, si jamais il va au ciel, il a dit pose ces questions au ciel et viens me donner la réponse en rêve. Bon, en effet, l'élève est décédé après quelques jours. Un mois après, l'élève apparaît au Ramban, son maître. Il lui dit, mon maître, le Ramban, j'ai posé la question. On m'a envoyé à un ciel plus élevé. Là-bas, je suis arrivé, j'ai posé encore la question. On m'a envoyé dans un univers encore plus spirituel, plus kadosh. Je suis monté là-bas, j'ai posé la question. On m'a dit, non, il faut aller encore plus haut. Je suis allé plus haut. Et quand je suis arrivé, n'est-ce pas, à ce monde si élevé, je ne pouvais plus poser les questions. Parce que les questions étaient répondues, tout était clair et nickel, comme de l'eau de roche. La question n'existait plus. Alors, en effet, la question, parce qu'on est dans un monde, n'est-ce pas, qui est bas, qui est matériel. Mais dès que Hachem va se dévoiler, eh bien, tout va être clair comme de l'eau de roche. Comme dit le Midrash, eh bien, à la fin des temps, lorsque quelqu'un voudra cueillir une figue, le Shabbat, la figue, elle va hurler, Shabbos ! Interdit. Ça veut dire quoi? C'est pas que la figue va parler. Ça veut dire que la présence divine sera tellement flagrante que personne au monde ne sera capable de cueillir une figue. Parce qu'on va palper cette présence divine d'Hachem, même par rapport aux éléments matériels. Ça, n'est-ce pas? C'est lorsque Hachem va se dévoiler, eh bien, tout va être clair. Maintenant, on a beaucoup de questions, mais cependant, renforcer la Emouna, que tout est pour le bien, c'est la façon d'éviter les souffrances. Parce que je le répète, soupirer, ça amène les souffrances. Remercier Hachem, tu te conduis dans un chemin de richesse, tu vas déclencher la richesse vers toi de façon encore plus flagrante. Bas-la-ra-ba.